Pierre Bismuth, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le directeur général de Myria AM. On va parler avec vous des marchés, des perspectives sur ces marchés. Pour commencer, peut-être votre vision hein, des banques centrales et leur stratégie, bien sûr avec la Fed dernièrement. Pour vous, comment vous analysez ce qu'elles sont en train de faire pour les marchés?
Alors, en fait, il faut séparer en plusieurs domaines, puisqu'on a des banques centrales qui ont des stratégies un peu différentes. Donc, en Europe, la véritable obsession de Mario Draghi et bientôt de Christine Lagarde, c'est d'essayer d'ancrer les anticipations d'inflation. Donc, on le voit sur le marché, les anticipations d'inflation sont très basses. En Italie, sur un an, on est même négatif de 1,30%. Donc, on s'attend à une. En tout cas, les anticipations disent que les prix vont plutôt reculer en Italie. En France, sur toutes les périodes jusqu'à 10 ans, on est inférieur à 0,8% annuel. Donc on est vraiment très très bas, puisque la cible de la BCE, c'est plutôt 1,9%, donc proche des 2%, mais un peu inférieur. Donc l'obsession de Mario Draghi, c'est d'essayer de reflatter l'économie. On voit que les dernières mesures annoncées, c'est véritablement des mesures bazooka. Donc on force la croissance via des taux extrêmement bas et négatifs. On empêche ces taux négatifs de trop peser sur les banques. Donc ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle pour les banques. Et ainsi, on essaye de faire revenir des anticipations d'inflation. Mais contrepartie, c'est qu'on a une inflation sur les actifs, pas sur les prix. Et c'est là un peu le nœud gordien qui se pose pour la BCE. Si on regarde ce qu'a fait la Fed hier, c'est plus accompagner et contenir en fait la vigueur du dollar, mais également de faire en sorte que la fin de cycle, si tant est qu'on puisse appeler ça une fin de cycle, se prolonge le plus longtemps possible. Donc la Fed décide de finalement baisser graduellement ses taux dans un ajustement de milieu de cycle, comme il l'appelle, comme Jérôme Powell l'appelle. Donc on voit que c'est plus tactique et plus pour consolider une croissance américaine qui est au potentiel.
Alors, il y a eu un grand débat il y a quelques semaines, c'était sur l'inversion de la courbe des taux. Il y a quelques mois, quand on parlait de cette inversion, ça n'inquiétait personne. Et puis là, il y a quelques semaines, on s'est dit, attention, à chaque fois, quand il y a cette inversion de courbe des taux, on va vers une récession quelques mois après, plusieurs mois après. Comment vous avez analysé ce moment-là? Parce qu'il y a eu un vrai moment de tension.
Bah, c'est-à-dire que nous, chez Myriam, on a décidé à peu près en mars-avril de remonter drastiquement la duration des portefeuilles, puisque le marché voulait absolument jouer le thème de la récession. Donc on sait très bien que la récession, déjà on la constate a posteriori, on ne sait pas vraiment quand elle arrive. Donc il y a des poches de récession dans le monde, hein. On a parlé de l'Italie, l'Allemagne freine très fortement. Et il se trouve que aux États-Unis, on avait une sorte de hiatus entre des taux court terme très élevés et une guerre commerciale qui faisait penser qu'on pouvait précipiter finalement l'économie mondiale en récession, et notamment l'économie américaine, en tout cas aussi chinoise. Donc ce thème de la récession, on a voulu l'accompagner, même si c'est vrai que c'est difficile de voir où est la récession aux États-Unis et comment elle pourrait arriver à court terme compte tenu de la force du marché de l'emploi, de la croissance économique constatée. C'est vrai que c'est très compliqué. Néanmoins, on voit bien que l'OCDE revoit systématiquement à la baisse la croissance mondiale. Donc c'est plus un atterrissage plus ou moins brutal qu'il va falloir accompagner. Ce que dit la courbe des taux, c'est que le marché, en tout cas, anticipe une récession aux États-Unis, mais plutôt, je pense, au niveau mondial, dans les 6 à 24 mois. Donc on voit que la plage de temps est quand même très très large.
Alors, on a eu bien sûr ces sujets géopolitiques avec l'Arabie Saoudite et le pétrole. Donc, on a vu le pétrole remonter brusquement. Et là, on a vu certains investisseurs dire: Ah, c'est parfait, les banques centrales qui voulaient de l'inflation vont en avoir grâce à ça. Et puis, bon, on a vu que ça s'est un peu stabilisé par la suite. Ça veut dire que ce sujet, effectivement, était aussi important. C'est-à-dire qu'on voit qu'il peut y avoir des risques à très court terme.
Alors les risques géopolitiques sont vraiment nombreux, hein. Bon, on a des risques plus politiques, donc guerre sino-américaine commerciale. On a le Brexit qui n'est toujours pas réglé et qui, à notre avis, est loin d'être réglé. Et puis là, comme on est en shutdown du Parlement, bah, on attend des nouvelles d'ici la mi-octobre. On voit bien que les négociations avec Bruxelles sont plus que ardues. Et puis on a des tensions, alors là pour le coup, véritablement géopolitiques. Donc on voit bien que l'Iran n'est pas en odeur de sainteté du côté de l'administration Trump. On a eu des attentats, en tout cas des attaques de drones en Arabie Saoudite. On a cette guerre sunnite-chiite qui risque à tout moment de. Peut-être pas d'enflammer le Proche ou Moyen-Orient, mais en tout cas d'avoir des tensions très très fortes au niveau des États.
Alors, on voit que pour l'investisseur, le sujet principal, hein, bien entendu, c'est d'aller chercher du rendement là où il peut. Il y a eu des stratégies obligataires, il y a eu des stratégies sur les marchés actions, bien entendu, mais ça devient compliqué parce qu'on a l'impression que les risques se multiplient. Vous parliez du Brexit, voilà, on vient de parler du pétrole, il y a un peu partout. Donc il faut naviguer dans on va dire, dans cet univers-là.
Absolument, il faut aussi beaucoup compter sur le soutien des banquiers centraux. On voit bien quand même que les banques centrales constituent un véritable put sur les actifs risqués, en tout cas les actifs financiers. Donc on peut naviguer, il y a des poches de rendement qui existent. C'est vrai qu'avec l'ajustement de milieu de cycle de la Fed, ça nous donne quand même une certaine visibilité sur les pays émergents et notamment sur les devises émergentes qui ne devraient pas trop pâtir d'un emballement du dollar. Donc on a encore des poches de rendement, mais bien évidemment associées à des risques qui sont plus ou moins grands, ou en tout cas une risque de volatilité plus ou moins grande.
Si on termine par la location d'actifs, est-ce qu'elle bouge beaucoup? Comment elle, voilà, comment le curseur évolue?
Alors, elle ne bouge pas beaucoup, mais elle a substantiellement évolué au cours de l'année. Donc, on est parti très fortement pondéré en action, du fait en fait d'une récession qu'on ne voyait pas venir en 2018. Et finalement, on a pris nos plus-values progressivement. À l'heure actuelle, on est légèrement sous-pondéré action, puisque compte tenu du parcours. Et on a donc remonté la duration, qui fait aussi un parcours fantastique cette année. Et on a mis des poches de rendement, donc au travers des obligations émergentes, soit en dollars, soit en devises locales, tout en conservant à plein le risque de change, puisqu'il nous semble que l'euro ne devrait pas progresser par rapport aux devises, non seulement G4, mais également émergentes.
Merci beaucoup Pierre Bismet d'avoir fait le point avec nous.
Merci Didier.